BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on parlera de la réflexion en cours sur la réforme de l'audiovisuel et de ses impacts possibles sur la pub avec la députée Aurore Berger, rapporteure d'une mission sur le sujet. On sera également avec Patrice Béguet, directeur exécutif communication et BPI France Excellence, et Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France, pour parler du BPI France Inno Génération qui se tient la semaine prochaine. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Isabelle Mirocha, la responsable le recrutement franchisé de Midas en France. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et on retrouve cette semaine Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et de la rédaction de CB News également, Charlotte Bricard pour les news. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Alors les prévisions de croissance du marché publicitaire ont été revues à la hausse, notamment sur le digital, Charlotte.
En effet, Zenith a revu à la hausse de 2,5 points. Ses prévisions de croissance des investissements publicitaires digitaux en France entre 2017 et 2020 avec une croissance attendue de 12,6%. Le marché publicitaire global affiche quant à lui une croissance de 3,7% cette année, largement boostée par le search et le social, dont la progression est très élevée avec 16% par an jusqu'en 2020.
Quelque chose de plus insolite que vous avez relevé, c'est le Bon Coin qui investit la 17e édition de la Nuit Blanche.
Et oui, dans la nuit du 6 au 7 octobre, les amateurs d'art contemporain prendront possession, comme à leur habitude, de l'espace public. Et parmi eux, une marque s'est invitée au programme, le Bon Coin, qui orchestre un défilé dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Sur scène, des mannequins castés dans les locaux de l'entreprise porteront 99 vêtements populaires sélectionnés par Maroussia Rebec, pionnière de l'upcycling et créatrice de la marque Andrea Cruz, sur le site Marchand. L'occasion pour Le Bon Coin d'affirmer que le site et ses acheteurs de produits de seconde main permettent d'économiser 8 millions de tonnes de CO2 en un an, soit l'équivalent de 3 ans sans circulation à Paris.
Et puis un rebond sur une actu qu'on a traitée la semaine dernière, Charlotte.
Oui, nous recevions ici Laurence Vignon, vice-présidente de l'agence ICI Barbès, qui revenait sur les raisons de la scission de l'agence avec le groupe auquel elle appartenait, TBWA. TBWA rebondissait en annonçant la création récemment de 65DB, une agence qui est consacrée au social listening et au planning stratégique dirigé par François Vogel, ex-associé d'ICI Barbès. Cette semaine, c'est la création d'une nouvelle agence généraliste, cette fois qu'annonce le groupe, les présidents. Une structure dont le nom ne rend pas grâce à ses deux cofondateurs, Marco de la Fuente et Olivier Moine, ex-d'ici Barbès, mais aux 21 présidents que compte l'agence dès son lancement. Une profession de foi en un mode de travail collaboratif et horizontal.
Et puis à l'inverse, chez Havas, c'est une agence qui disparaît.
Et oui, Havas l'a annoncé cette semaine. Deux de ses trois agences généralistes n'en forment désormais plus qu'une, l'agence Human Seven, ex-Légolois, qui s'était réorganisée et rebaptisée en décembre dernier, notamment suite à la perte du budget Citroën, devient, en fusionnant avec Havas Paris, Havas Paris Seven. Julien Carrette, ex-PDG d'Havas Paris, et Christophe Coffre, patron de la création, deviennent dès lors coprésidents de la nouvelle entité qui pèsera 90 millions d'euros et rassemblera plus de 600 personnes, s'estimant ainsi mieux armées sur un marché ultra concurrentiel menacé par la désintermédiation. De quoi exister face au poids lourd qu'est l'autre agence du groupe, BETC.
Frédéric, c'est quoi la tendance? Alors, c'est de multiplier les agences ou de les fusionner? Je m'y permets.
Oui, c'est un petit peu compliqué. La tectonique des groupes de publicité est un peu complexe. En fait, ce qui compte, c'est de créer des agences pour les clients, mais derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est que la mécanique est un petit peu la même, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais finalement, c'est la vie répétée de ce monde qui aime bien que ça bouge tout le temps.
Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Aurore Berger. Bonjour.
Bonjour.
Députée La République En Marche des Yvelines, rapporteur de la mission sur la nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique. Rapport remis hier. Quelles sont selon vous d'abord les mesures les plus urgentes à prendre pour réformer cet audiovisuel français?
Il y a en fait un certain nombre d'anachronismes aujourd'hui qui persistent dans la loi ou dans le règlement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intervenues par décret. Je pense à la fois à tout ce qui encadre aujourd'hui la publicité, ce qui encadre les modalités de financement du cinéma, où de fait on a un anachronisme parce qu'il n'y a pas de convergence fiscale entre les différents acteurs. On a des nouveaux entrants qui bénéficient beaucoup des contenus, mais qui ne participent pas à leur financement, et des acteurs historiques qui, évidemment, les financent beaucoup, mais qui les diffusent parfois un peu tardivement du fait de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Ouais. Donc l'idée, c'est de remettre à plat pour à la fois sécuriser le financement, parce qu'on a un modèle de financement qui est unique au monde et qui a fait ses preuves. On voit quand même la vitalité qu'on a de nos salles de cinéma, du cinéma, de la production audiovisuelle, mais un certain nombre de choses à remettre au goût du jour.
Frédéric.
Il y a plein de propositions qui sont
40, Frédéric.
40 exactement, qui sont pour certaines assez décapantes, d'autres un peu plus attendues. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la dernière fois qu'on a remis un rapport au gouvernement sur l'audiovisuel, il n'en a absolument pas tenu compte. Donc, comment est-ce que vous espérez que cette fois-ci, ça va marcher ?
Déjà, on est en amont d'un projet de loi qui va intervenir en 2019. La ministre souhaite finaliser le projet de loi fin 2018 pour une discussion au printemps. Donc l'idée, c'était d'intervenir en amont et pas d'être en décalage ou après, évidemment, la discussion. Là, c'est une bonne chose, on est dans le bon tempo. Mmh. Et puis ensuite, on a travaillé aussi main dans la main, c'est-à-dire par rapport à ce que le projet de loi va pouvoir contenir, à la fois régulation de l'audiovisuel public, changement sur l'audiovisuel privé, transposition de directives européennes qui sont très attendues. Et donc, c'est aussi par rapport à ça que le rapport a cherché à se positionner. Et d'ailleurs, la ministre de la Culture était là. Et ce qui était important aussi, le secrétaire d'État au numérique était là. Et je pense que arriver sur ces questions à faire travailler culture et numérique ensemble, c'est assez nouveau.
C'est déjà pas mal.
Parmi vos 40 propositions, donc justement l'autorisation de la publicité segmentée et géolocalisée à la télévision dans le cadre d'une expérimentation de 18 mois, c'est quoi la publicité segmentée et géolocalisée ?
En fait, c'est la publicité que vous avez déjà, mais vous l'avez déjà sur Facebook et sur Google, c'est-à-dire une publicité qui est beaucoup plus dédiée à vos comportements, à la typologie de public que vous êtes. Sauf qu'aujourd'hui, la télévision a les moyens technologique de le faire, mais n'a pas le droit de le faire. Résultat, ces recettes publicitaires, elles partent sur les GAFA, et en plus, ça génère aucune recette supplémentaire pour l'État, pas de recette fiscale notamment. Donc l'idée, c'est d'autoriser la télévision à le faire sur la base d'une expérimentation et de lever donc un frein qui aujourd'hui est une vraie contrainte pour notre télévision.
Est-ce que ça va pas aller marcher sur les plats-demandes des radios locales, de la presse quotidienne régionale, qui ont justement eux aussi cette capacité d'avoir une publicité qui est plus proche de leur cible ?
Alors, ils ont de toute façon un avantage considérable parce qu'ils sont déjà, eux, en proximité. Donc l'information la plus locale, c'est légitime évidemment, que ce soit votre presse quotidienne régionale ou que ce soit la radio. Par contre, on a fonctionné sur la publicité par le biais de secteurs interdits. C'est-à-dire, on disait, on interdit à la télévision de faire tel type de publicité pour protéger un autre secteur. Est-ce que ça a vraiment protégé la presse écrite ? Je suis pas certaine. Par contre, moi, je veux pas qu'on lève toutes les interdictions ou qu'on le fasse sans aucune réserve ou sans expérimentation.
Sur le cinéma ou la grande distribution et les promotions, par exemple ?
Par exemple, notamment sur la grande distribution, on a déjà élargi, c'est-à-dire que la télévision a la possibilité d'avoir des publicités sur la grande distribution. Par contre, elle n'a pas le droit d'avoir des publicités pour les promotions de la grande distribution. Et là, je pense qu'il ne faut pas l'ouvrir, en tout cas, je ne recommande de ne pas l'ouvrir, parce que c'est 45% du marché publicitaire des radios, et donc il y aura un risque important de déséquilibre. Moi, tout ce que je propose dans le rapport sur la publicité, c'est de dire comment on fait pour augmenter l'investissement publicitaire dans notre pays, qui est aujourd'hui trop faible, ou en tout cas plus faible que dans d'autres pays européens. C'est pas comment on réalloue entre les acteurs, entre la radio versus la télé, parce que ça, ce serait défavorable. C'est vraiment augmenter en fait le gâteau que les différents acteurs historiques peuvent se partager.
Mais la publicité ciblée, adressée, c'est très, à l'heure du RGPD, c'est et quand même d'une relative défiance à l'égard de la manière dont la pub justement se comporte sur le web ou sur nos téléphones, c'est compatible avec ça ?
C'est compatible. Déjà, évidemment, il faudra que la CNIL s'en saisisse, c'est-à-dire respect évidemment de nos libertés, de nos données personnelles. On a justement, vous le rappelez, le RGPD, donc tout sera conforme évidemment. L'idée n'est pas d'être intrusif, et puis d'ailleurs, je suis pas certaine que le téléspectateur ait envie d'un caractère trop intrusif de la publicité, voire même parfois de trop de publicité. Mais aujourd'hui, de fait, c'est une publicité qui existe, mais qui existe à un endroit qui ne permet pas de soutenir financièrement la création française, là où les chaînes, elles, participent grandement au financement de la création. Et moi, sur la réforme de l'audiovisuel, c'est aussi ce qui m'intéresse, comment on fait pour faire vivre la création et la diversité culturelle. Et en plus, qui ne bénéficie pas à l'État, parce que pas de recettes fiscales. Donc, quelque part, c'est perdant deux fois, là où on pourrait être plus gagnant avec la télévision.
Déréguler la publicité, c'est bien, mais en même temps, à l'heure où sur les plateformes, on peut regarder des contenus aujourd'hui sans aucune interruption publicitaire, est-ce que c'est pas un peu un combat d'arrière-garde finalement et qu'il faut pas trouver d'autres moyens de financer l'audiovisuel ?
Ben, il y a l'audiovisuel public qui, lui, est financé par la redevance. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'à terme, il faut que l'audiovisuel public ne soit financé que par de la redevance et de l'argent public. C'est-à-dire que ce ne soit plus financé par la publicité. Parce que sinon, vous aurez toujours des injonctions contradictoires sur l'audiovisuel public. On vous dira d'un côté, oh là là, il faut évidemment qu'il se dégage de toutes les mesures d'audience. Et puis le jour où on fait une mauvaise audience, on dira, mais à quoi ça sert?
Donc, il y a c'est possible économiquement, ça, de faire supporter uniquement par la redevance l'audiovisuel.
Moi, en tout cas, ce que je propose, c'est de faire en sorte que la redevance, aujourd'hui, enfin la contribution audiovisuelle publique, soit un peu plus logique dans ses modalités, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit universalisé, c'est-à-dire que quel que soit le foyer, même si vous ne détenez pas un téléviseur, eh bien, vous puissiez payer cette redevance, qui paraît en fait logique, parce que on consomme plus forcément la télé devant une télé. On la consomme sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur. Et puis l'audiovisuel public, c'est aussi un service public. Et donc c'est légitime aussi que les Français puissent y contribuer. Du coup, je propose que les recettes supplémentaires qui seraient dégagées, environ 100 millions d'euros, ça permette de commencer à supprimer de la publicité sur l'audiovisuel public. Toute la publicité sur Radio France et la publicité sur France 5. C'est un premier pas. Mais oui, je pense qu'à terme, si on veut vraiment singulariser notre audiovisuel public, il faudra qu'il n'y ait plus de pub.
Merci beaucoup Aurore Berger. Je rappelle que vous êtes la députée La République En Marche des Yvelines et rapporteure donc de la mission sur la nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Valérie Potent cette semaine. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors on parle cette semaine des constructeurs automobiles qui veulent séduire les jeunes d'un seul coup.
Oui, de manière assez surprenante, on a deux marques, Dacia et Volvo, qui ont clairement affiché qu'elles voulaient faire des jeunes une cible prioritaire, en tout cas de communication. On a d'un côté donc Volvo qui, pour mettre en avant son SUV compact, le XC40, a lancé il y a quelques semaines une web-série qui met en scène trois influenceurs qui se font découvrir mutuellement leur ville, Paris, Bordeaux et Montpellier, au volant d'une Volvo, bien sûr. Et on a de l'autre côté Dacia, qui, lui, a décidé de s'attaquer aux jeunes conducteurs à travers une campagne digitale qui s'appelle Bouge by Dacia et dont le film met en scène toutes les situations un petit peu de galère que peuvent vivre ces jeunes lorsqu'ils ne sont pas propriétaires justement d'une voiture neuve. Et quand on sait que l'âge moyen d'acquisition d'une première voiture neuve en France est de 45 ans, voire de 48 ans pour les voitures premium, on se dit que le pari pour le coup est assez osé pour ne pas dire risqué.
Mais alors pourquoi est-ce qu'ils prennent ce risque, hein ?
Alors les raisons sont différentes selon les marques, bien sûr. Pour Volvo, qui est une marque premium, on s'aperçoit que l'utilisation du jeune, elle relève davantage d'une stratégie d'image. On est là pour rajeunir une image plus que pour vendre des voitures assez jeunes. En revanche, chez Dacia, ce qui est vraiment surprenant, c'est que là, ils ciblent clairement le jeune conducteur, celui qui vient d'avoir son permis. Ça peut passer pour un excès de confiance, hein, mais la marque s'appuie en fait sur une réalité qui est que le marché automobile français se porte extrêmement bien. On n'a jamais autant vendu de voitures que cette année, ce qui fait que ils se disent pourquoi ne pas continuer, pourquoi ne pas surfer sur la vague. Après toute la question, est-ce que c'est vraiment la bonne vague sur laquelle il fallait surfer ?
Ouais, parce qu'on est bien d'accord, les tendances annoncées vont pas vraiment dans ce sens quand même.
Non, les tendances elles vont même exactement dans le sens inverse. On sait aujourd'hui que les jeunes ne ressentent plus l'intérêt, ne voient plus l'intérêt de posséder une voiture. Ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux à passer le permis juste à leur majorité. Et globalement, en fait, la voiture pour eux n'est plus un objet, n'est plus un symbole de liberté, comme souhaitent le vendre Dacia et Volvo. On sait aussi que les grandes métropoles souhaitent, à plus ou moins court terme, exclure, ou en tout cas vraiment limiter fortement l'accès des voitures au centre-ville. Le problème, en fait, des constructeurs, c'est qu'ils sont aujourd'hui un peu trop dépendants de leur modèle industriel, qui repose sur de la vente en masse de véhicules thermiques. Il leur faut amortir leurs investissements. Pour info, quand même, il faut entre 15 et 20 ans pour amortir une chaîne de production. Donc, si jusqu'ici, on va dire, tout va bien pour les constructeurs, ils savent aussi qu'ils ne pourront pas quand même éviter cette grande disruption qui s'annonce. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ont bien préparé cette disruption ? Bah, ça, c'est l'avenir. Et puis, c'est surtout l'excellent dossier de CBNews qui nous le dira.
Ce numéro-là de CBNews, que j'ai entre les mains.
Très, très bon article. Je ne sais plus qui l'a écrit,
mais
très bon.
Tous les bons kiosques. Merci, Valérie Potent.
BFM Business. Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour avec Patrice Béguet, bonjour.
Bonjour.
Directeur exécutif communication et BPI France Excellence et Angelo Gopé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Live Nation France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous rappelle que c'est quand même peut-être le plus gros organisateur de concerts au monde, enfin en tout cas l'un des plus majeurs. Le 11 octobre, gros événement de BPI à l'Accor Arena, le BPI France Inno Génération. Patrice Béguet, c'est la 4e édition. Rappelez-nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas là encore, de quoi il s'agit.
Mais en fait, c'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. On le dit clairement, c'est entrepreneurs de tout le pays, unissons-nous. C'est important que les startups, les TPE, les PME, les ETI, en fait, s'unissent, mais également les créateurs d'entreprises, les gens qui viennent des quartiers, les étudiants. En fait, c'est la France. L'aventure, c'est la France, une fois de plus, à l'événement du 11 octobre.
C'est la France, mais pas seulement. Vous avez beaucoup de gens qui viennent de l'international cette année.
Oui, sur les 40 000 personnes, on aura plus de 2 500 personnes qui viennent de l'international. C'est énorme. Donc, cette année, nous allons doubler, en fait, en anglais, les différents échos, puisqu'il faut pas oublier qu'on va avoir à peu près 300 ateliers, conférences et masterclass sur la France, sur l'international également, avec tous les continents. Et puis, nous allons avoir 1000 speakers, dont 100 top speakers. Tout le CAC 40 est là, bien évidemment, mais également toute cette dynamique qui est en train de bouger, parce que même chez les étudiants, on en parlait hors antenne, vraiment, l'entrepreneuriat, ça marche.
Frédéric.
Et vous, Angelo, alors, dans cet immense événement, quel va être le rôle de Live Nation? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cet événement?
Bon, la première chose, avant déjà la prise de parole, c'est surtout de partager avec les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a du mal à savoir, c'est que l'entreprise du spectacle est un peu mise de côté et plutôt regardée comme quelque chose qui est forcément pas industriel. Mais aujourd'hui, c'est de partager la même chose parce qu'on a, comme on en parlait il y a deux secondes, c'est que on amène beaucoup de choses à l'économie française, que ce soit dans le spectacle en France ou à l'export. Aujourd'hui, les spectacles et la musique ont apporté 280 millions d'euros à l'export, à l'économie française. Donc je pense que c'est partager ça, et puis après c'est de partager aujourd'hui les nouvelles valeurs et la vision qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur.
Alors justement, vous allez participer à un atelier qui s'appelle Unissons-nous pour construire demain. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette thématique, Angelo Gopé?
Je pense que c'est important, c'est qu'il faut savoir que dans la musique, et comme dans d'autres milieux, plus on va être unis et mieux on va réussir. Et aujourd'hui, on a tendance à se disperser parce qu'on veut séparer des grands des petits, on veut séparer le privé du public. Et je pense que la réussite passe par vraiment une réussite qui va être collective. Et surtout, je pense que ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'on a un devoir de transmission par rapport à ça. Et qu'il faut qu'on amène des nouvelles générations d'entrepreneurs, des nouvelles générations de managers. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la culture, la diversité a été mise à l'as de la culture. On voit qu'il y a très peu de femmes qui sont entrepreneurs ou producteurs de spectacles. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à se dire comment demain nous allons faire les entrepreneurs, les directeurs de festivals, les managers des futures grandes entreprises de spectacles. Et donc dans ce cadre-là, on a un projet d'école qu'on veut mettre en place. Donc on va partager tout ça dans le big, et faire de sorte qu'on ait beaucoup de gens qui nous suivent derrière et qu'on soit tous dans la même vision d'une France et d'entrepreneuriat qui soit une réussite.
Patrice Béguet, on parle beaucoup de réseaux sociaux, de communautés. Est-ce que ça doit s'appliquer aussi quelque part aux entrepreneurs finalement?
Mais complètement. En fait, BPI France, vous allez me dire c'est une banque, mais c'est avant tout un réseau social d'entrepreneurs, les femmes et les hommes qui créent les emplois en France. Nous, on a été créés pour deux choses. La croissance et l'emploi. On voit ça marche. Et ça marche partout, dans tout le territoire, avec nos partenaires banquiers, avec nos partenaires investisseurs. Et c'est vrai que plus on est unis, plus on fonce ensemble, plus on réussit ensemble. On dit souvent que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est plus que vrai à BPI France Inno Génération. D'ailleurs, l'année dernière, on avait ouvert à 8h30. Vu l'affluence, on est obligé d'ouvrir à 7h ce matin.
Mais est-ce que c'est pas, vous parlez de force collective, est-ce que c'est pas tout le sens aussi de French Tech, de French Fab qui finalement fédère comme ça?
Bien sûr, les étendards. C'est vrai qu'au niveau des startups, le succès de la French Tech est vraiment quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, la French Fab, aujourd'hui, c'est l'industrie. L'industrie, c'est le secteur d'activité qui permet, comme vous le savez, de développer de plus en plus d'emplois, et des emplois chez les jeunes et des emplois dans les territoires. Donc, dès le départ, d'ailleurs, BFM, vous étiez à nos côtés pour lancer l'étendard de l'industrie française, ce fameux mouvement, cette En Marche, en fait, si on pourrait presque dire, hein, l'industrie En Marche française. Mais c'est ça, en fait. Et on voit les énergies créatrices, elles sont vraiment sur l'ensemble de nos territoires. Et vraiment, le plus beau pays du monde, c'est la France. Hein.
Mais ça, on n'en doute pas une seconde. Non, mais sérieusement, mais en plus, de fait, on assiste depuis, en gros, le début du numérique à quelque chose d'assez formidable, et la création de start-up, d'entreprises par des jeunes, et un enthousiasme qui existe, qui n'a, à mon avis, pas tellement existé jusqu'à présent. Mais malgré tout, on ne crée pas, nous, en France ou en Europe, de géants qui rivalisent avec les GAFA, de vrais géants qui rivalisent avec les GAFA. Et c'est quoi les conditions pour qu'on y arrive, pour qu'un jour on ait un Google ou un Facebook ou un je ne sais quoi équivalent français, européen?
Il faut accélérer les génies, c'est-à-dire que on a décidé de créer des accélérateurs, c'est-à-dire de permettre à des startups de devenir des PME, des PME, des ETI, des ETI des grands groupes. Donc on a 4000 accélérateurs qu'on met en place dans l'ensemble des territoires pour permettre de trouver ces blablacars. Mais ils existent. Il faut tout simplement trouver deux choses qui sont importantes. C'est la confiance et la conquête. Voilà. Ceux qui partent à l'attaque des géants, vraiment, c'est la France de demain.
Ouais. Angelo Gopé, moi, je me demandais, vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est facile, parce que j'entends très bien votre discours, de s'unir, mais en même temps, est-ce que c'est facile parce qu'on a des secteurs qui, aujourd'hui, sont de plus en plus concurrentiels? Est-ce que c'est pas un peu antinomique, tout ça?
Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre nos différences de côté pour pouvoir avancer ensemble, parce que on a tous l'objectif aujourd'hui, c'est la réussite, un, des artistes, deux, de nos entreprises, comme le dit Patrice, et puis après, deux, de l'économie française. Et je pense que si on se met tous ensemble à avoir une vraie réflexion sur ce que va être l'avenir de la profession, on a pu le voir grâce au crédit d'impôt qui a été voté il y a 2 ans, qui a permis aujourd'hui à 850 entreprises d'avoir de l'argent, à 200 nouveaux artistes d'aller sur la route. Donc on a travaillé tous ensemble pour avoir ce crédit d'impôt. Je pense qu'il faut mettre de côté nos différences. On doit pas essayer de rivaliser. Chacun a ses propres forces, et je pense que c'est en s'unissant qu'on va arriver à faire nouveau. On voit, par exemple, dans la musique, on a lancé une enquête chez Live Nation. 71% des jeunes et des gens qui vont à des concerts voient dans la musique le meilleur bien-être, beaucoup plus que le reste. Et 70% de ces gens-là disent qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rassembleur la musique que le sport, que la politique et pour le reste. Donc je pense qu'il faut servir de ça pour aller encore plus loin, parce qu'on a une force qui est la musique. On a des artistes qui sont aujourd'hui hyper créateurs. On a des plateformes digitales qui permettent aux artistes de s'exporter. Et il faut qu'on arrive tous ensemble à cette réussite.
Bon, la musique, c'est rassembleur, mais votre événement aussi, vous attendez combien de personnes?
40 000 personnes.
40 000 personnes.
Ouais. Avec ce qui fait vraiment, vraiment plaisir, plus de 45% de femmes. Et quand on voit qu'il y a très peu d'entrepreneurs femmes,
un joli score.
Qu'il y a quelque chose qui est en train de se déclencher.
Eh ben, tant mieux. J'espère que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Merci beaucoup, Patrice Béguet, directeur exécutif communication et BPI France Excellence, et Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France.
Merci.
Merci.
BFM Business. Hebdo.com. Solutions mailing.
Avec Isabelle Mirocha, bonjour.
Bonjour Aurélie, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes responsable recrutement franchisé Midas France. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une opération de mailing que vous avez mis en place pour recruter justement de nouveaux franchisés. Quel était le constat de départ qui vous a poussé à cette opération?
Eh bien, Midas, aujourd'hui, c'est un réseau en France de 360 centres de services rapides automobiles. On fait partie du groupe Mobivia. Juste pour mes mots, dans notre groupe Norauto, Carter Cash, VID, notre incubateur à start-up. Et on a le souhait de continuer le développement à travers la création de nouveaux centres en France. Et l'opération qu'on a bâtie avec la Poste Solutions Business visait à aller parler à des garagistes indépendants et à leur proposer de découvrir Midas et de comprendre pourquoi c'était intéressant de rejoindre notre enseigne.
Il fallait les convertir en fait, en quelque sorte.
C'est exactement ça, on appelle ça en interne un plan de conversion.
Comment est-ce que, du coup, ça s'est présenté, cette opération?
Alors, quand la Poste Solutions Business est venue nous voir, ils nous ont dit qu'on pouvait trouver quelque chose qui était vraiment intéressant et qui mélangeait à la fois du digital et en même temps une proximité. Parce que chez Midas, on a des valeurs très fortes et en particulier valeurs d'audace, d'exigence et de proximité. Et on a trouvé que ce qui nous était proposé, à savoir une démarche avec des facteurs qui allaient déposer une enveloppe dans laquelle il y allait y avoir cette webkey, avec un petit message de la part de Midas, ça ressemblait particulièrement à notre démarche autour de la valeur de proximité.
Alors c'est quoi une webkey justement?
Ah oui, ça c'est la bonne question Aurélie. La webkey, la voici, je vous la présente. Dans une enveloppe, ce petit support où on peut enlever une clé USB. Donc au-delà de cette enveloppe média vraiment matérialisée, possibilité de mettre la clé sur un ordinateur et découvrir des liens avec nous avions mis des vidéos, des informations sur Midas, sur ce que le réseau de franchise Midas pouvait apporter à de potentiels garagistes indépendants qui souhaitaient nous rejoindre. Et on trouvait que cet outil hybride, qui est vraiment le mélange du relationnel pur avec ce facteur personne de confiance, qui arrive dans un garage on trouvait que mélanger avec le digital, ça avait beaucoup de sens et ça faisait se rencontrer deux univers qui aujourd'hui peuvent très souvent être mis face à face alors qu'ils peuvent être tout à fait complémentaires.
C'est même une campagne tridimensionnelle en fait, à la fois humaine, digitale et print finalement.
C'est tout à fait ça, et c'est ça qui nous a beaucoup intéressés et qui permettait d'aller au-delà de cette relation entre Midas qui arrive chez vous avec cette enveloppe et donner des informations qui allaient parler de comment nous sommes organisés en interne pour soutenir notre réseau de franchisés, notre plan de développement. On avait choisi une zone en France hein, sur laquelle on a fait cette opération et je vous cache pas, on en parlera peut-être à la fin de cette interview, qu'on va continuer.
Et justement, je voulais savoir quels sont les retours, mais j'imagine, vu ce que vous me dites, qu'ils sont très bons.
Oui, c'est des très bons retours. Pour vous donner un ordre d'idée, on crée Midas en France 20 centres par an, nouveaux centres, hein, vraiment sortis de terre, des projets complètement nouveaux. Et à travers cette opération, on est rentré en contact en particulier, et on commence à vraiment bien avancer, et on espère qu'ils vont rejoindre notre réseau dans les mois à venir, avec 3 potentiels entrepreneurs indépendants qui vont rejoindre l'enseigne Midas.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, alors, de cette opération ?
Qu'elle était formidable parce qu'elle correspondait à nos valeurs. Valeur de proximité, de rentrer en contact avec quelqu'un, pouvoir présenter ce que nous offrons au sein de Midas en tant que franchiseur, et d'une certaine manière s'appuyer sur ce réseau de facteurs avec La Poste qui a une vraie proximité également sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer jusqu'à la fin de l'année avec une deuxième vague, pour rien vous cacher, qui devrait démarrer bientôt.
Merci beaucoup Isabelle Mirochard, responsable recrutement franchisé Midas France. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.